leurs chefs d'entreprise. Mais les questions aussi très concrètes sur la contamination de l'argent liquide, les distributeurs à sec aussi, vous lui posez vos questions, vous le savez, au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. 9h, votre matinale prolongée, avec un coup de pouce, chers parents. Les vacances approchent, déjà que le télétravail et l'école à la maison, c'était compliqué. Comment s'organiser? Comment rythmer 15 jours de congés confinés? Nous serons avec Gilles-Marie Vallet, pédopsychiatre et auteur des 101 règles de l'éducation bienveillante, avec vous surtout au 3921. Pour l'heure, à 6h40, je reçois Jérémy Pelletier, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Jérémy Pelletier.
Bonjour.
Pas de blague en ce 1er avril. Donc, on a déjà ce qu'il faut avec cette crise du coronavirus. Vous avez coordonné cette étude de IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch sur le complotisme autour du Covid-19, enquête parue le week-end dernier. D'abord, c'est typiquement le genre d'événement qui inspire les complotistes, hein.
Alors absolument, alors il n'y a pas uniquement les événements et les crises sanitaires qui inspirent les complotismes. On s'aperçoit maintenant dans nos sociétés contemporaines que chaque crise, chaque événement majeur génère sa propre grille de lecture complotiste, sa propre grille de lecture conspirationniste. Mais c'est vrai que aujourd'hui, avec cette crise du Covid-19, on a tous les ingrédients typiques, à la fois dans le type de crise et dans les modalités de la crise, à savoir le confinement, le fait que les individus sont chez eux, potentiellement à consommer beaucoup d'écrans et beaucoup de réseaux sociaux. On a tous les ingrédients, évidemment, pour que le complotisme fonctionne.
Et oui, le facteur confinement en plus. Et les Français, alors, ils adhèrent ?
Alors, nous, ce qui était intéressant justement dans cette enquête qu'on a menée avec Rudy Rechtstadt, Jérôme Fourquet et donc la Fondation Jean Jaurès, c'était de comparer avec une étude américaine qui a été menée justement sur ce sujet. Une étude américaine qui a été publiée il y a quelques jours montrait que 29% des adultes américains pensaient que le virus avait été fabriqué en laboratoire. Et donc, on s'est dit, ça serait très intéressant de reprendre les mêmes questions et de le tester en France. Et on s'aperçoit qu'en France, quand bien même vous avez une majorité de Français, 57%, qui est d'accord avec la thèse scientifique, à savoir que le Covid-19 est apparu de manière naturelle, on a 26% des Français, un Français sur quatre, qui adhèrent à l'idée selon laquelle le virus a été conçu en laboratoire, soit de façon intentionnelle, soit de façon accidentelle.
Ça, c'est la grosse infox qui circule le plus, peut-être le coronavirus fabriqué dans un laboratoire. Il y a aussi l'idée que c'est une épidémie montée de toutes pièces par telle ou telle puissance étrangère, ou alors encore la 5G qui aurait pu accélérer la propagation de l'épidémie. Bref, il y a ce qu'il faut. Mais voilà, quand on entend dans votre étude qu'un quart des Français pensent que le Covid-19 a été créé en laboratoire, Jérémy Pelletier, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le croire ?
Écoutez, aujourd'hui, je crois que le génome est connu, commence à être connu de la part d'un certain nombre de scientifiques. Je veux dire, il y a tous les scientifiques de la place mondiale qui maintenant travaillent et qui s'intéressent à ce génome. Quand bien même c'est un génome qu'ils connaissaient peu, quand bien même c'est un virus, ils l'ont beaucoup dit, qu'ils connaissaient peu. Mais aujourd'hui, tout le monde sait et tous les scientifiques savent qu'il ne s'agit pas d'un virus fabriqué en laboratoire, comme ça a pu être le cas par d'autres virus. Pour le coup, par le passé, il ne s'agit pas de nier cela. Mais c'est prouvé, ils savent désormais que le virus est sauvage. Il reste encore à prouver exactement la provenance, mais c'est prouvé que ce virus est sauvage.
Donc, si je vous posais la question ainsi, Jérémy Pelletier, je me permets, c'est parce que dans le discours officiel, il y a aussi eu beaucoup de vérités assénées qui se sont avérées fausses par la suite. Évidemment, je pense en particulier à ces experts qui nous ont longtemps dit que ce n'était qu'une grippette.
Bien sûr, mais ça relevait, je pense, de la méconnaissance et du caractère extra.
Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que le facteur d'incertitude et la difficulté que peuvent avoir certaines personnes à dire ben, sur ça, je ne sais pas, ou sur ça, on avance, on ne sait pas encore. Le gros point d'interrogation qu'il y a laisse la place ouverte à un champ des possibles inimaginables.
Oui, ça peut alimenter le doute, sauf que le complotiste est différent, je dirais, du doute, du simple bon esprit critique, tel que voudraient essayer de nous le démontrer, d'ailleurs, ceux qui défendent et ceux qui alimentent ces thèses. Une théorie du complot et un délire, je dirais, complotiste, c'est une dimension paranoïaque de la société. Savoir une dimension paranoïaque de la vie, c'est considérer que quelqu'un tire les ficelles, qu'un groupe d'individus tire des ficelles et que quelqu'un va tirer profit de la situation. Très sincèrement, penser que quelqu'un a fabriqué intentionnellement, qu'un groupe a fabriqué intentionnellement le virus pour tirer profit d'une situation qui met au banc plus de la moitié de l'humanité, c'est une vraie vision complotiste, c'est une vision paranoïaque qui considère et dans laquelle vous avez l'impression que vous êtes assiégé, attaqué par un groupe d'individus.
Et le rôle des politiques dans tout ça, je pense évidemment à Marine Le Pen qui estime que la question est légitime. Alors soit le rôle des politiques, soit la question de l'appartenance politique des personnes que vous avez sondées.
Alors, vous avez raison de poser la question. C'est très intéressant, justement, ce que montre l'enquête et ce que montre cette enquête, c'est que on n'a pas des publics, je dirais, dans les publics les plus perméables, qui adhèrent le plus facilement aux théories du complot. On n'a pas des publics différents que ce qu'on voit habituellement dans nos enquêtes. On a les plus jeunes qui adhèrent beaucoup plus facilement aux théories autour aux théories complotistes autour du Covid-19. On a les catégories sociales les plus pauvres et on a en effet les sympathisants du Rassemblement National, où on s'aperçoit dans notre enquête qu'on a 40% des sympathisants du Rassemblement National qui considèrent que le virus a été conçu en laboratoire de façon intentionnelle, ce qui est colossal. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça répond à un historique en fait du Rassemblement National, du Front National, depuis 30 ou 40 ans, qui a toujours surfé pour essayer de montrer qu'il y avait de l'opacité à travers des crises sanitaires. Et donc, quand Marine Le Pen dit que le doute est permis, qu'elle considère comme légitime de penser que le virus a été conçu en laboratoire, elle répond à sa base, elle répond à son électorat. Et je pense aussi que ça correspond à son idéologie.
Et ça, simplement, ce sera ma dernière question. Est-ce que ça a du sens, vous qui travaillez sur ces questions-là, et là c'est presque une question pour nous dans les rédactions, est-ce que ça a du sens de combattre ces théories ou est-ce qu'au contraire, finalement, on en éteint une, il y en a trois qui apparaissent et on leur donne de l'écho ?
Non, je pense que ça a du sens. Je pense que c'est très important. On s'aperçoit que dans la séquence dans laquelle on est, en gros, on n'a pas réussi à endiguer la vitesse de propagation des théories autour du Covid-19. On s'aperçoit que les théories du Covid-19, par rapport à d'autres théories plus anciennes, plus classiques, ont une visibilité sans commune mesure par rapport à d'autres théories plus classiques et plus anciennes. Et je crois que c'est très important parce que les théories du complot peuvent mettre à mal la confiance qui est nécessaire pour que les gens respectent les politiques publiques défendues par le gouvernement. Et donc, faire preuve en permanence de transparence, de pédagogie et de décryptage, comme peuvent le faire les médias comme les vôtres, c'est quelque chose de très important dans la séquence pour créer du consensus.
Je vais m'appuyer aussi sur nos auditeurs, si vous le voulez bien, Jérémy Pelletier. Je vais lancer un appel parce qu'en ce moment, on est confinés. Donc, on a souvent au moins deux générations qui sont rassemblées dans un foyer, qui consomment via leur smartphone, justement, de l'information vraie ou fausse. Et j'imagine qu'à table, vous échangez sur ce que vous lisez, qu'en ce moment, sur les groupes WhatsApp, on s'envoie des articles sans avoir toujours vérifié, bien sûr. N'hésitez pas à témoigner ce matin au 3921 sur le hashtag Radio Ouverte, sur ces échanges que vous pouvez avoir à la maison. Jérémy Pelletier, merci beaucoup, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès. Merci d'être venu nous éclairer ce matin sur Europe 1.
Merci à vous, bon courage.
Il est 6h49. Europe 1.